BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un... On est d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business, comme tous les soirs en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Bien sûr, bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors c'est un événement incontournable, hein, c'est aujourd'hui que débute le forum économique de Davos en Suisse. Il est de retour en présentiel cette année dans un contexte géopolitique, économique et même climatique particulièrement éprouvant. On va bien sûr beaucoup vous en parler ce soir, Audrey.
On en parlera notamment avec Nicolas Bavrez, l'écrivain et essayiste. Et puis évidemment, on vous parlera aussi du climat social, puisque c'est dans 3 jours que débute la première journée d'action nationale contre la réforme des retraites. On en parlera notamment dans le débat de Good Evening Business tout à l'heure.
Dans une demi-heure. Et puis, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans la grande distribution avec cette proposition de loi qui pourrait donner de sérieux gages aux fournisseurs grâce à la grande distribution qui dit attention à la hausse des prix. Du coup, Bruno Le Maire s'en mêle et donc plus rien n'est acquis dans cette histoire. On vous racontera tout ça dans un instant. On vous racontera beaucoup de choses puisqu'on est ensemble, répétons-le, jusqu'à 20h évidemment.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc c'est l'événement de la semaine et BFM Business vous le fera vivre bien sûr tous les jours jusqu'à vendredi prochain, le fameux forum économique de Davos qui débute en Suisse, bien sûr. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume Paul.
Un Davos 2023 qui s'ouvre dans un climat d'inquiétude générale et à l'échelle internationale, bien sûr Thomas.
Oui, c'est le président du Forum de Davos qui parle, je le cite, du contexte géopolitique et économique le plus complexe depuis des décennies. Ce qu'il a en tête, c'est que depuis 3 ans, le début de la pandémie, le monde enchaîne effectivement les crises à l'échelle planétaire. La Covid-19, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et maintenant les menaces de récession. Et même si les dirigeants ont plutôt réussi, en tout cas pour l'instant, à surmonter ces chocs, ce qu'on constate, c'est que ces crises ont quand même tendance à diviser les pays et les puissances. Et c'est ça, au fond, qui inquiète le plus les élites réunies cette semaine à Davos, c'est le recul de la coopération internationale. Et dans tout un tas de domaines, sur l'économie et la crise de l'énergie, on voit que l'Europe est la seule à encaisser le choc et que la coopération avec les États-Unis se paye très cher. Sur la crise climatique, les États-Unis lancent seuls une course aux subventions avec l'IRA et font peser une menace considérable sur l'industrie européenne. Et sur la crise sanitaire, eh bien on a bien vu que la Chine est restée enfermée pendant 3 ans et a provoqué des dérèglements profonds des chaînes logistiques et d'approvisionnement. En fait, ce qu'on constate depuis 3 ans, c'est que chaque pays et chaque puissance a voulu réagir vite, quitte à agir seul face à des crises puissantes et inattendues. Chaque pays a mis en place ses mesures contre l'inflation pour contenir la grogne sociale. Chaque pays veut sécuriser ses chaînes d'approvisionnement, son accès à l'énergie et aux matières premières. Et le tout dans un contexte géopolitique où chaque pays aussi doit prendre position face à la Russie et face à la Chine. Donc vous l'aurez compris, les élites vont essayer de retrouver un peu d'unité cette semaine à Davos. Coopérer dans un monde fragmenté, c'est le thème de cette édition 2023 face à la multiplication des crises géopolitiques, énergétiques, climatiques et économiques.
La superposition des crises. Alors justement Audrey, est-ce qu'on peut retrouver ce semblant d'unité à Davos pour essayer de trouver des remèdes aux maux et à maux de notre planète?
Vous savez, cette réunion elle est souvent critiquée parce que c'est soi-disant le sommet des élites. Mais en réalité, ce dont on ne parle pas assez, c'est qu'un tiers des participants sont issus de la société civile, dont les chevaux de bataille sont la lutte contre les inégalités, contre le réchauffement climatique. Donc c'est évidemment le meilleur moment pour attirer justement l'attention des dirigeants du monde entier sur ces sujets d'intérêt général.
On en reparle bien sûr largement ce soir, hein, l'essayiste Nicolas Bavrez avec nous dans quelques minutes. Puis il y aura un gros débat entre 19h30 et 20h autour de cette édition 2023 du Forum de Davos, bien sûr. 18h04, dans l'actualité, il y a donc cette proposition de loi en France, qui vient de la majorité, mais qui a réussi à la diviser. Proposition du député Renaissance Frédéric Descrozaille, qui pourrait donner de sérieux gages aux fournisseurs face à la grande distribution. La grande distribution, du coup, alerte sur une possible envolée des prix. Et du coup, Bruno Le Maire s'en mêle désormais. On voit tout ça avec Thomas Chenel.
La proposition de loi envisage de rééquilibrer les négociations commerciales au profit des industriels en leur laissant le dernier mot. Pour le spécialiste du retail au cabinet Accenture, Richard Panquio, directeur général de l'ILEC, le lobby des industriels, même si le texte ne fait pas l'unanimité, le principal risque serait de conserver les négociations en l'état.
Imaginez demain que si on n'est pas d'accord, Monsieur Leclerc me dit « nous c'est terminé, vous bossez plus avec nous », 23% du business. Si Oxo me dit « on travaille plus avec vous », 30% du business. Si Carrefour me dit « on travaille plus avec vous », 20% du business. Vous voyez, il y a un tel niveau de concentration. concentration, que le risque pour l'industriel, il est bien plus important pour le distributeur.
De son côté, le ministre de l'économie reste prudent dans un contexte particulièrement tendu. Bruno Le Maire ne tranche pas entre les industriels et les distributeurs.
L'équilibre n'est pas encore trouvé et que quand l'équilibre n'est pas encore trouvé, là, en l'espèce, c'est entre l'industriel agroalimentaire, le consommateur et le distributeur, ben, quand l'équilibre n'est pas encore trouvé, il faut continuer à travailler.
Donc, en l'état, vous ne soutenez pas cette proposition de
loi ? En l'état, je pense que cette proposition de loi qui part d'une bonne intention doit être retravaillée, qu'on a encore un peu de temps pour la retravailler.
Les négociations commerciales courent jusqu'au 28 février minuit. Pour l'heure, la proposition de loi ne devrait pas être votée.
Voilà, Thomas Schnell avec nous sur BFM Business. En France, toujours, vous voulez dire un mot d'immobilier, parce que vous savez que depuis le 1er janvier dernier, les logements les plus énergivores, les passoires thermiques, ne peuvent plus être loués en l'état. Et là, on a une étude du réseau Guy Hoquet qui nous dit, alors qu'il n'y a pas de gros mouvement de vente pour l'instant sur ces passoires thermiques, mais que leur valeur est clairement en train de descendre en flèche. Marie-Cœur de Roy.
Pour l'instant, pas encore de mouvement massif de mise en vente de passoires thermiques. Aujourd'hui, elles ne représentent que 8% des biens à la vente et cette part n'a pas bougé depuis un an. Pour autant, le réseau Guy Hoquet note qu'encore un tiers des offres n'indiquent pas d'étiquette énergétique et surtout, il y a de très grosses différences en fonction des villes. C'est à Paris que les passoires pèsent le plus lourd. Elles représentent près de 22% des logements à la vente. On est autour des 15% à Dijon et Rouen et pas très loin à Caen, Limoges, Saint-Étienne, Nîmes ou Clermont-Ferrand. A l'inverse, la côte méditerranéenne semble épargnée. Comptez seulement 2,5% de passoires à la vente à Perpignan et en reste sous les 5% à Montpellier, Marseille, Toulon et Nice. Ce phénomène n'est donc pas homogène et les pertes de valeur non plus. Si au global les passoires coûtent environ 10% moins cher, on peut monter jusqu'à près de 30% à Avignon et plus de 15% à Nîmes ou Montauban. Dans les marchés plus tendus et où le parc est le plus ancien, les différents sont toujours quasi inexistantes. Seulement 3% de décote pour une passoire à Paris et même aucune à Bordeaux, Rennes, Angers ou Orléans.
Voilà, ces passoires thermiques dont les prix s'effondrent. Aurait-on pu éviter une telle situation, Audrey, pour vous, finalement ?
Oui, alors, bien sûr, absolument. Et je rappelle, Guillaume, que ces 7 millions de logements en France qui sont aujourd'hui considérés justement comme des passoires thermiques, c'est un chiffre en hausse de 400 000 par rapport à 2018 et que les politiques, en effet, de rénovation énergétique des logements menées, en gros, depuis 20 ans, ne sont pas du tout à la hauteur. Il faut être très clair, il faudrait au moins 35 millions d'euros d'argent supplémentaire par an pour atteindre une neutralité carbone.
Voilà pour ces passoires thermiques. Dans l'actualité des entreprises, est-ce que l'énorme deal entre Microsoft et Activision Blizzard dans les jeux vidéo, est-ce que ce deal serait pas en train de capoter ? On avait déjà eu des fortes réserves de la part des régulateurs américains et britanniques sur ce dossier. Ben là, c'est Bruxelles qui, visiblement, serait sur le point de communiquer une série de griefs à Microsoft sur cette opération. On y reviendra à 19h. Un deal, je vous rappelle, évalué à 69 milliards de dollars. Et puis, énorme contrat annoncé aujourd'hui par l'allemand Siemens. Contrat à 3 milliards d'euros pour livrer à l'Inde la bagatelle de 1200 locomotives qui vont assurer du transport de marchandises. Jamais Siemens n'avait passé un aussi gros contrat pour ses locomotives. Jean-Baptiste Huette.
Narendra Modi, le Premier ministre indien, passe à la vitesse supérieure. Le réseau ferré indien est en pleine modernisation. Depuis 2015, plus de 170 milliards de dollars ont été mis sur la table. Un réseau ferré qui est l'un des plus grands du monde, avec chaque jour 24 millions de passagers et 22 000 trains qui se croisent. Narendra Modi entend aussi accroître la part du fret ferroviaire de 27% aujourd'hui à 45% d'ici à 2030. Un fret qui souffre de la vétusté de certaines lignes et de son matériel. La vitesse moyenne des train de marchandises n'est que de 45 km/h. Cette commande géante de 1200 locomotives Siemens dédiées au transport de marchandises devrait donc permettre d'accélérer le mouvement dans les années qui viennent. L'Inde, un marché d'importance pour les industriels du ferroviaire. Depuis 10 ans, le secteur s'est ouvert aux investissements étrangers. Un marché où, pour le moment, tout le monde a sa place. En 2015, le français Alstom avait remporté un contrat de 2,8 milliards d'euros pour des locomotives électriques, puis encore près de 400 millions d'euros au mois de novembre dernier pour des rames de métro.
Voilà, cet énorme contrat, 3 milliards, remporté par l'allemand Siemens aujourd'hui. 18h10, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouvez Stéphane Pedrazzi depuis Euronext à la Défense. Bonsoir mon cher Stéphane, du vert ce soir pour débuter la semaine à Paris. Hein.
Et pour la quatrième séance consécutive, effectivement, le CAC termine ce soir sur une progression de 0,29%, 7043 points, ce qui porte à pratiquement 9% le rebond du marché parisien depuis le 1er janvier. Malgré tout, Guillaume, on a manqué un petit peu de repères aujourd'hui sur le marché parisien, puisqu'il n'y avait pas de séance à Wall Street. Les marchés américains sont fermés en raison du Martin Luther King Day aux États-Unis. Et puis également, beaucoup de prudence de la part des investisseurs. D'abord parce qu'on connaîtra cette nuit les chiffres de la croissance en Chine pour le quatrième trimestre. Évidemment, c'est une publication très attendue par les marchés. Et puis, on entre dans la saison des résultats aux États-Unis, les résultats d'entreprise avec demain les publications de deux banques américaines, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Plus tard dans la semaine, on aura les chiffres de Netflix et de Procter & Gamble. Ça sera évidemment à suivre et ça aura sans doute un impact sur le marché parisien. Côté valeur, finalement, une seule s'est distinguée aujourd'hui. C'est Total Energy qui avait d'abord ouvert la séance en progression après avoir confirmé un investissement au large du Brésil pour exploiter un champ pétrolier. Puis le titre progressivement a reculé. Ce soir, il termine en baisse de 0,59%. Je vous rappelle le CAC, 7043 points. Ce soir, il est en hausse de 0,29%.
Merci beaucoup Stéphane. Rapidement, on regarde ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,33%, 34 302 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui grappille 0,7%, 11 079 points. 18h11, notre premier invité tout de suite pour parler bien sûr du Forum de Davos.
Good evening business, l'invité.
C'est Nicolas Bavrez. Bonsoir Monsieur Bavrez, installez-vous. Bonsoir. Historien, bonsoir, essayiste, éditorialiste qui est avec nous pour parler de ce Forum de Davos qui débute donc ce soir du côté de la Suisse dans un contexte économique, géopolitique, climatique extrêmement malmené. Déjà, est-ce que vous croyez à la grand-messe de Davos pour apporter des réponses aux mots et MAUX dont souffre notre planète, Nicolas Bavrez?
Non, je crois que ça fait très longtemps que Davos n'apporte plus de réponses. C'est plutôt un moment où les gens se rencontrent, et ce qui est déjà pas si mal. Ouais. Mais il n'y a pas de réponse de Davos. Il y en a d'autant moins que, on va y revenir, mais dans cette grande bascule de l'année 2022, c'est vrai que ce ne sont plus les marchés qui ont la main, mais la politique et la géopolitique.
Le retour de la politique, ça vous le dit donc.
Et de la géopolitique, ouais. Oui. Et c'est plutôt aujourd'hui, effectivement, les problèmes de souveraineté, la géopolitique qui prime. C'est cette grande bascule de 2022 qui, pour ça, aura été... Vous savez, c'est Alexandre Solzhenitsyn qui disait que l'histoire s'organise autour de nœuds. Les nœuds, c'est des années où, à la fois, on a plusieurs crises, mais des crises qui s'enchevêtrent et dont l'interaction fait que tout un tas de dynamiques qui étaient déjà dans le système, mais provoquent un changement, un basculement. C'est ce qui s'est passé en 2022. Géopolitique, la guerre en Ukraine, l'économie, retour de l'inflation, fin de l'argent gratuit illimité, la technologie, une grande secousse, et le climat, à la fois la réalité des risques climatiques, et avec l'échec de la COP, le fait que cette conflictualité fait que on a les États, le système multilatéral n'est plus en état de gérer.
Oui, mais alors justement, si je rebondis sur ce que vous dites, comme le sujet du réchauffement climatique ou encore celui de la pandémie et des pandémies mondiales, on voit bien que les réponses, elles ne peuvent venir que d'un point de vue international. Donc en ce sens, ces réunions qui réunissent tous les dirigeants économiques ou politiques à l'échelle mondiale, elles restent essentielles.
Alors, c'est évidemment bien qu'il reste un dialogue, mais cela dit, si vous regardez la réalité, aujourd'hui, l'OMC en matière de commerce n'existe plus. Bretton Woods est contesté par les Chinois qui mettent en place leurs propres institutions. Si vous regardez tous les traités de contrôle de désarmement ou de désarmement, il n'en reste plus qu'un qui est START. Tous les autres ont été démantelés ou violés par la Russie. Donc, si vous voulez, ce qui est spectaculaire, c'est quand même toutes ces institutions, ces règles qu'on avait mis en place pour limiter la violence ou pour permettre de discuter, aujourd'hui, ils sont très mal en point et quand ils subsistent, ils n'arrivent pas à déboucher sur quelques résultats que ce soit. Regardez aujourd'hui, en matière sanitaire, la Chine sort de manière improvisée de sa stratégie zéro Covid, donc ça va être une catastrophe sanitaire avec des millions de morts. Elle fait ça évidemment de manière totalement non coordonnée.
Croyez-vous au grand retour de la Chine cette année? Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, avec des avis extrêmement divergents.
Non, il n'y a pas de... La Chine va être d'autant plus dangereuse, qu'elle a d'énormes problèmes intérieurs, mais la réalité de la Chine, c'est une démographie qui maintenant s'est retournée, oui, un ralentissement économique spectaculaire et durable. Xi Jinping est quand même l'homme qui aura fait passer la croissance chinoise de 9,5 à 2 à 3% par an. Et c'est durable parce que, comme il a remis en place un système maoïste où c'est le parti communiste qui contrôle maintenant les entreprises, les universités et les centres de recherche, si vous voulez, aujourd'hui, monsieur Jack Ma, il est exilé au Japon, ouais, et il est pas prêt de revenir. Donc si vous voulez, les messages qui ont été donnés, c'est une orientation de long terme, donc c'est un changement qui est très important. Et on voit que la société chinoise, elle est aujourd'hui extrêmement déchirée, fragmentée, mais que les classes moyennes connectées, en réalité, elles savent qu'elles ne peuvent pas se révolter contre le régime, mais elles ont choisi un mode de révolte implicite qui est, d'abord, les Chinois ne font plus d'enfants, et ensuite, ils travaillent de moins en moins.
Oui. Est-ce que vous pensez, alors c'est à Davos qu'on porte le message de la mondialisation depuis des décennies, est-ce que vous croyez qu'à Davos, on va faire le constat que peut-être la mondialisation est sur le point d'être quelque chose de révolu, que l'ère du village global, finalement, a du plomb dans l'aile, si vous me passez.
Non, mais le village global, il est mort. Mais la mondialisation n'est pas morte. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a fait une grande erreur. C'est-à-dire que depuis le début, dans la mondialisation, vous avez deux types de forces. Il y a des forces d'intégration, les marchés, la technologie. Et il y avait des forces de divergence. Mais sauf que pendant 20 ans, on n'a pas voulu les voir. Mais il y a eu les attentats de 2001, il y a eu les guerres perdues, il y a eu ensuite la vague d'attentats de 2015, il y a eu le krach de 2008. Oui, oui. Et donc, on n'a pas vu notamment la montée du nationalisme, du phénomène religieux. Aujourd'hui, on fait un peu les erreur inverse. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont ces forces de divergence qui aujourd'hui dominent. Mais les forces d'intégration, elles perdurent, y compris sous forme de crise. Regardez ce qui se passe en matière d'énergie ou oui, d'alimentation. Ce sont des crises mondiales à partir, en fait, de pays. Si on prend la Russie et l'Ukraine à l'échelle de l'économie mondiale, c'est pas des pays qui comptent énormément.
Bien sûr, bien sûr.
Mais il se trouve que ces pays comptent dans certains secteurs et qu'à partir de cette guerre, plus du blocage de la mer Noire, vous créez une crise alimentaire mondiale, oui, qui, oui, montre bien que l'interdépendance, elle continue. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est ce qui prime, c'est la divergence. Donc, on est toujours dans l'histoire universelle, est dans un monde qui se reconstitue en bloc.
Quel constat on va faire à Davos par rapport à cette situation, à cet enchevêtrement de crise, finalement, pour vous, dans les prochains jours? Voilà. Et quelles solutions on y apporte?
Non, si vous voulez, les solutions, quelles solutions
peut y avoir? C'est plus de coopération au niveau international. C'est ce que dit Klaus Schwab, par exemple, le fondateur, qui dit...
Oui, mais la coopération au niveau international, pensez, si vous voulez, que comment est-ce qu'on remet en route le système multilatéral alors qu'on a aujourd'hui trois blocs, un bloc occidental, un bloc d'empire autoritaire, qui sont quand même en guerre contre la démocratie, et puis ensuite des pays du Sud qui se sont autonomisés, qui sont multi-alignés, qui spontanément penchent plutôt du côté des empires autoritaires à cause du ressentiment sur le passé colonial. Comment est-ce qu'on rassemble tous ces gens-là et qu'on les refait travailler ensemble? Ça va pas être évident du tout. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est précisément, notamment pour les démocraties, ne pas renoncer à l'idée qu'il y ait des valeurs universelles, mettre en place une stratégie de cantonnement des régimes autoritaires qui permettent de les endiguer, évidemment, sans basculer et sans faire l'escalade dans la guerre mondiale, et par ailleurs retisser des liens avec le Sud pour ramener le Sud plutôt du côté de la coopération et non pas du
côté des... Et alors, est-ce qu'on peut espérer des discussions honnêtes et transparentes sur les sujets de fiscalité au niveau international?
Si vous voulez, au niveau mondial, réponse non. Pourquoi? D'ailleurs, c'était au sein de l'OCDE.
Oui.
Donc, au sein de l'OCDE, est-ce qu'on peut arriver à un accord? Réponse oui. Au niveau mondial.
À 150 pays, hein.
Oui, c'est très important. Oui. Mais au sein de l'OCDE, et si vous voulez, c'est intéressant parce que c'est typiquement ce qu'il faut faire. C'est, si on veut sauver la liberté, il faut quand même arriver à ce que, un peu comme on l'a fait en 45, que les démocraties, qui sont aujourd'hui des régimes clairement minoritaires dans le monde, oui, si on n'arrive pas à organiser déjà un dialogue qui soit, et un dialogue coopératif, ce qui n'exclut pas de la concurrence par ailleurs, mais entre les États-Unis, Canada, Amérique du Nord, les démocraties européennes, les grandes démocraties asiatiques et puis celles d'Amérique latine, il est clair que on prendra d'énormes risques pour la liberté.
Donc il faut une nouvelle réforme de la fiscalité pour vous, au-delà de ce qui a été bouclé au niveau de l'OCDE. Il faut une nouvelle réforme
non,
de
mais
la
surtout,
fiscalité
pour l'instant,
pour réduire les inégalités.
Je vous rappelle que la réforme dont on a discuté dans l'OCDE, oui. par ailleurs, oui. on en a discuté, mais elle n'est toujours pas mise en œuvre.
Exactement.
Donc il faut déjà la mettre en œuvre. Et derrière, si vous voulez, il faut surtout redonner aux démocraties une vraie stratégie qui soit une stratégie de long terme. Et qui permettent, premièrement, parce qu'on a deux problèmes, le populisme à l'intérieur, les empires autoritaires à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on a le populisme au bout du bout ? Parce qu'on a déstabilisé la classe moyenne. Donc il faut restabiliser la classe moyenne des pays développés. Mmh. Ce qui suppose d'arriver à trouver une forme de capitalisme qui soit moins déséquilibré et qui fonctionne pas uniquement sur de la bulle et de la dette qui aujourd'hui par ailleurs n'est plus possible avec la remontée des taux. Et puis vis-à-vis des empires autoritaires, ce que je disais, il faut avoir une stratégie complexe comme on l'a eu en 45 face à l'Union soviétique avec endiguement, deuxièmement pas de contrôler l'escalade militaire en gardant la suprématie militaire et technologique et dialogue avec la société civile parce qu'il faut jamais oublier que après tout la Turquie survivra à Erdogan.
Oui,
la Chine survivra à Xi Jinping.
Oui.
Et la Russie survivra à Vladimir Poutine.
Mais dans quel état ?
Dans quel état, notamment pour la Russie, c'est vrai que ce sera très
long. Pour la Chine, probablement.
Et il y aura des séquelles majeures parce que, de fait, avec ce que fait aujourd'hui la Russie, quand on regarde, par exemple, est-ce qu'on peut sortir de ce conflit sans juger les crimes de guerre ? Je pense que ce sera très difficile. Est-ce qu'on peut sortir avec la Russie, avec ce régime actuel ? Là aussi, c'est une question qui se...
On suivra en tout cas, ici, sur ce plateau, l'évolution de Davos.
On est dans une guerre longue, et c'est pour ça que la géopolitique va dominer l'agenda, et c'est une géopolitique qui est placée sous le signe du retour de la guerre et de l'histoire dans sa version la plus tragique.
De l'Europe. On suivra ces débats, il en sera bien sûr question, sans doute, au quotidien du côté de Davos, où nous serons effectivement pendant 4 jours sur BFM Business. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Bavrez.
Merci infiniment.
Merci de passer nous voir, historien, essayiste, éditorialiste avec nous, à très vite avec plaisir sur BFM Business. Merci infiniment Nicolas Bavrez. 18h22, on marque une petite pause et puis...
On se retrouve pour le grand débat de Good Evening Business.
On est parti dans un instant.
À tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Ouais. 18h27, ça y est, c'est parti.
Pardon, on a commencé avant que...
Déjà
avant
le bazar.
C'est déjà le bazar, c'est comme ça. Le grand débat, donc, le débat de BFM Business, de Good Evening
on
jusqu'à 19h.
On n'était déjà pas d'accord.
Ah oui, oui, déjà, ça a commencé, c'est prometteur. Avec André Tcherkov, bien sûr, avec Béatrice bonsoir. Mathieu. Bonsoir, Béatrice.
Bonsoir.
Grand reporter à l'Express, spécialiste de l'économie, Frédéric Bocara. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, économiste, chacune et chacun.
Membre des économistes atterrés, Manel Le Chypre, éditorialiste BFM Business. Bonsoir à
bonsoir.
Tous. Notre 2 minutes pour s'ambiancer, effectivement, mais après, on est là jusqu'à 19h. Pour parler de ce forum de Davos dont on vient de débattre, évidemment, avec Nicolas Bavrez. J'ai une question, ça sert à quoi, Davos ?
Écoutez, Davos, c'est deux choses. Davos, on peut dire, c'est le raout des super riches de la planète, ça sert à se montrer. Mais de l'autre côté...
Je sais pas s'ils se montrent tous.
Oui, à montrer qu'ils font quelque chose, à se donner bonne conscience et à montrer leur puissance. Mais de l'autre côté, ça manifeste le besoin qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une instance de dialogue, qu'il y ait d'autres institutions internationales. Et il faut entendre ça. Qui impliquerait les entreprises autrement sur leurs responsabilités. Mais là, on va entrer sur les transformations presque anti-Davos.
Bah, écoutez, si on prend la définition du patron de JP Morgan, quand il parle de Davos, il dit que c'est l'endroit où les milliardaires disent aux millionnaires comment se sent la classe moyenne. Alors, c'est
pas mal
ça.
Non, je sais pas, Béatrice. Non. Pas mal ça.
Oui, c'est l'entre-soi d'une grande élite, mais c'est plutôt, moi, je pense qu'il faut s'interroger sur le modèle Davos. Qu'est-ce qu'a représenté Davos en fait et ce lieu de discussion pendant des décennies de la mondialisation heureuse. Et on voit bien qu'il n'était pas tant que ça d'ailleurs. Mais donc on voit bien que ce modèle-là en fait est complètement chamboulé. Donc Donc Davos ne sert pas grand-chose en dehors du fait de...
Même si la société civile, vous le disiez quand même bien.
Mais qui n'aboutit pas à grand-chose, quoi. On discute de sujets, voilà. Donc là, ils vont discuter de la guerre en Ukraine. Bon, qu'est-ce que ça va changer ? Rien. De la transition, je ne pense pas que ça va accélérer la transition.
Oui, mais en réalité, Béatrice, quand on regarde les grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, que ce soit le réchauffement climatique ou les pandémies, les réponses, elles doivent absolument être globales, internationales. Donc ces grands rendez-vous restent essentiels quand même pour à la fois maintenir un dialogue et puis apporter des débuts de réponse.
Oui, mais un dialogue entre... Excusez-moi, vous avez...
Un dialogue entre qui ?
C'est ça la question.
Oui, voilà. À la fois entre les chefs d'État, il y a aussi un tiers des participants qui sont des représentants de la société civile qui portent les sujets du climat, des inégalités sociales, etc.
Ils sont là
etc.
juste pour témoignage et pour la...
Non, mais qui tire
c'est
des...
C'est Carlos Ghosn et ses copains. Bon, Carlos Ghosn, il ne peut plus être là, je fais exprès. Hein, il
est c'est pas vrai. L'intervention de Greta Thunberg, justement, avait été largement relayée et avait vraiment participé à une prise de conscience. Non, je me souviens, j'y étais cette année-là, notamment de la part du patron de DHL, qui avait pris des mesures justement spécifiques et très concrètes suite à son intervention. Donc moi je suis plutôt pour. Voilà, j'y suis allée deux fois et j'ai trouvé à chaque fois que c'était quand même très intéressant.
Eh ben que vous soyez pour ou contre, on va continuer à en reparler dans un.
C'est intéressant, mais il faut autre chose.
Non, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, en effet, mais ça fait partie de ce dont on a besoin, il me semble. Mais en effet, on continue après la pub.
Mais bien sûr, on continue la pub, on se retrouve dans un instant.
Béatrice a raison en disant c'est la pseudo-élite.
On parlera de ça, et puis on parlera bien sûr de cette folle semaine sociale.
Je vous donnerai des exemples concrets.
Bien sûr, avec des exemples concrets, évidemment.
BFM Business, l'info éco.
Pardon, deux minutes. D'abord, c'est Faiza Younzi qui nous donne les grands titres de l'actualité. Bonsoir, Faiza.
Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. Coup d'envoi aujourd'hui du Forum de Davos. Le rendez-vous des élites politiques et économiques se déroule cette année dans un contexte de crise avec la guerre en Ukraine et de dérèglement climatique. Le contexte géopolitique et économique le plus complexe depuis des décennies, de l'aveu même du président du Forum. BFM Business est sur place avec Edwige Chevrillon et Nathan Cocampo. Vous pourrez vivre cette semaine, cet événement toute la semaine. Le premier invité demain sera le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. C'est un projet de loi qui divise le secteur agroalimentaire et les députés. Si la proposition de Frédéric Descrozailles doit être examinée avant demain à l'Assemblée nationale, l'objectif du texte, rééquilibrer le rapport de force dans les négociations commerciales. Mais il y a un article, l'article 3, qui a mis le feu aux poudres en cas de désaccord. Ce seraient les industriels qui auraient le dernier mot face aux distributeurs. Évidemment, cette disposition est fortement contestée par la grande distribution. Dans l'actualité des entreprises, ce contrat à 3 milliards d'euros pour Siemens, le groupe allemand a été choisi par la compagnie ferroviaire indienne pour lui fournir 1200 locomotives. C'est la plus grosse commande de locomotives jamais remportée par Siemens. Nouveau concurrent pour la SNCF, la Renfe va débarquer en France avant l'été. La compagnie ferroviaire espagnole va proposer des trajets Marseille-Madrid et Lyon-Barcelone à bord de ces trains à grande vitesse. Microsoft va-t-il écoper d'un avertissement de la Commission européenne sur le rachat d'Activision? C'est ce qu'ont déclaré certaines sources à Reuters. Bruxelles a passé au peigne fin cette opération à 69 milliards de dollars et préparait une communication de ses griefs concernant ce rachat, une liste qui devrait être envoyée prochainement à Microsoft. C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les auditions sur le dossier Gosport au tribunal de commerce de Grenoble. Il doit se prononcer sur la situation financière précise de l'entreprise, alors que les représentants des salariés craignent qu'elle ne soit en cessation de paiement. Malgré sa fragilité financière, la maison mère a annoncé le rachat de Gap France pour 38 millions d'euros. Le tribunal va rendre sa décision jeudi prochain. Allez, on jette un œil sur la Bourse de Paris avant de refermer ce flash. Petite hausse pour le CAC 40 qui gagne 0,3% à la clôture à 7043 points.
Merci beaucoup Faiza. 18h33, c'est reparti pour le grand débat.
Good evening business, le débat.
Le débat, c'est reparti jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov, avec Béatrice Mathieu, avec Frédéric Bocara et avec Emmanuel Le Chip, qui nous a pas dit ce qu'il pensait de Davos. En 30 secondes, là, ça sert à quelque chose, Davos, ou pas pour vous?
Ça sert pour ceux qui y sont, effectivement, pour tous les patrons qui y sont. C'est une très bonne occasion de faire du business. Oui. Moi, je crois beaucoup, notamment au plus haut niveau, à la rencontre physique. Il y a des travaux qui avaient été faits très intéressants sur... Les réunions du G20 et du G7 pendant que au moment où tout était obligé de se faire à distance, et on avait montré que les résultats étaient moins efficaces parce que finalement la machine à café ça marche même quand vous appelez Emmanuel Macron, Joe Biden ou Xi Jinping, vous voyez. Donc donc ça c'est important. Je pense qu'il y a effectivement il y a tout un tas de tables rondes qui sont très intéressantes et qui vous apprennent beaucoup de choses quand vous avez le droit d'y assister, puisque moi j'ai jamais voulu y aller parce que cette espèce de système de caste où en gros quand vous y arrivez vous êtes un journaliste de merde, vous avez droit à rien, et puis non mais c'est vrai, c'est la réalité. Au départ vous êtes petit journaliste, il y a plein de trucs auxquels vous avez pas droit, puis alors faut grimper dans la hiérarchie des journalistes au fil des années pour espérer assister à des trucs intéressants. Moi ça m'a toujours révulsé, ce genre de truc. Donc voilà.
Après, pas la concurrence.
Non, mais c'est vrai. Je déteste ce genre de choses. Après, c'est cet aspect-là qui est intéressant. Après, les grandes personnalités, nous individuellement, on peut les rencontrer ailleurs.
Oui. Donc il y a beaucoup plus que Davos.
Et puis je suis d'accord avec cette idée de démondialisation. Va falloir quand même que ce qui a été le symbole de la mondialisation heureuse, je pense qu'ils ont toute la capacité pour se réinventer et pour inventer quelque chose de nouveau.
Audrey.
Non mais en fait on a tendance à penser que Davos c'est 4 jours par an, mais c'est pas vrai parce que ce sont des groupes de travail qui fonctionnent tout au long de l'année et par ailleurs Davos a été un lanceur de projets qui ont eu des impacts très très positifs et très importants. Par exemple le lancement de l'Alliance mondiale pour les vaccins, le Gavi, ça s'est fait au sein de Davos, ça a amélioré l'accès des vaccins nouveaux à des millions d'enfants sur les territoires les plus fragilisés. Le Pérou s'est engagé à Davos justement sur la réduction de la déforestation de ces territoires. Le Vietnam s'est engagé à Davos sur la lutte contre les produits plastiques. Donc il se passe des choses et c'est pas que des effets d'annonce. Et encore une fois, ce sont des groupes de travail qui fonctionnent tout au long de l'année. Donc je vois pas comment on peut être contre.
Béatrice Mathieu.
Non mais qu'il y ait des annonces dans toutes les grandes messes, il y a des annonces. Moi j'ai pas connu ni un G20 ni une grande messe internationale.
C'est des communiqués lénifiants, c'était G20. C'est comme
oui, non mais il y a toujours des annonces. Oui, toujours on va réduire oui, ça. Oui. On s'engage, contre les pesticides, la déforestation, la protection de la biodiversité, etc. Après, entre les annonces et puis la réalité du terrain, bon, je dis pas que Gavi n'a pas marché, pour le coup, je ne savais pas. Ouais. Et effectivement, c'est une très très grande réussite. Bon. Je pense qu'il y a un modèle Davos qui est très challengé par la période actuelle, qui est cette forme de démondialisation, même si j'entendais ce que disait David Bavrès tout à l'heure, on est encore dans un d'interdépendance, évidemment. Mais il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même mondialisation qui a commencé dans les années 80, et par ailleurs, on est dans une période de guerre en Europe, à nos portes, et Davos n'a jamais en fait œuvrer dans une période de guerre et d'affrontement entre deux grandes puissances qui sont les États-Unis et la Chine. Donc c'est un contexte qui challenge énormément le modèle Davos et le modèle de discussion, parce que finalement à Davos je ne suis pas sûre qu'il y ait une délégation chinoise pléthorique et qui soit là pour discuter de l'avenir du monde demain avec les Américains.
Alors
on avait remarqué que ça portait malheur. Le pays qui était le plus, à chaque fois, surreprésenté à Davos subissait une crise l'année qui suivait.
Okay. Alors cette année, on n'aura pas Emmanuel Macron,
Pour compléter ce que dit Béatrice, en fait, à mon avis, on a besoin d'une toute autre mondialisation. C'est pas mondialisation, c'est tout autre. L'enjeu. Oui. Bon, d'ailleurs, moi, je suis invité par la Fondation José Marti.
Ah, je crois que vous étiez invité à Davos.
La Fondation José Marti, c'est à La Havane, pour parler d'une toute autre mondialisation.
Il y fera plus chaud déjà.
Oui, d'accord, mais je vais travailler beaucoup parce que c'est compliqué, c'est la question du dollar. Ouais. Et alors dans ce monde, en fait, on a une coproduction dans ce monde, on fabrique les choses ensemble. Le problème des vaccins, c'est on va vous vendre des vaccins et débrouillez-vous. Mais il y a le problème de coproduction, le problème de recherche commune, le problème de partage des informations, de partage des savoirs. C'est ces enjeux-là, à mon avis, qui sont challengés aujourd'hui. Et derrière, on parle de Villeroy de Galhau, donc le gouverneur de la Banque de France, la Banque Centrale Française. La question, c'est mobiliser les moyens financiers, mais tout autrement, avec des contraintes, pas seulement, optionnelles. Le jour où ils se sentent capables, ils prennent un engagement. Il y a des annonces, comme le dit Béatrice Mathieu, mais le problème, c'est il faut prendre des engagements, il faut des institutions précises. Donc ça préfigure le besoin, mais c'est pas comme ça qu'il faudra faire. On est un peu comme avant 14-18, ou même avant la SDN, ou avant l'ONU. Il va falloir une institution vraiment publique qui fait autrement. Davos, ça fait parler les gens ensemble, mais franchement, c'est pas... C'est un peu les monsieur patronniers, c'est pas les dames patronesses, mais c'est les monsieur patronniers.
Je suis pas d'accord avec ça, Frédéric.
Mais parce qu'en ça préfigure des choses.
Non, mais attendez.
Avec les dames patronesses, il y avait les gens qui ont préfiguré les
oui,
assurances sociales.
Bien sûr. Non, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a plus souvent des syndicalistes, en réalité, à Davos, que des banquiers. Il y a plus de prix Nobel de sciences que des prix Nobel d'économie. Ouais. Donc on a aussi beaucoup, beaucoup d'idées reçues.
En nombre de gens qui parlent et qui viennent, mais bon. En contenu de ce qui se
passe. Alors, juste un mot pour vous dire qu'on va parler de beaucoup de choses, mais il y a un thème qui a été érigé en priorité, c'est la crise du coût de la vie, identifiée comme le plus gros risque mondial pour les deux ans à venir par les organisateurs de Davos. Combat que porte aussi l'ONG Oxfam, vous avez vu ça, mais à sa manière, puisque l'ONG appelle ni plus ni moins, je cite, à abolir les milliardaires. Ils veulent diviser par deux le nombre de milliardaires dans le monde d'ici à 2030 grâce à la taxation, avant de les abolir, disent-ils, à long terme. Chaque milliardaire représente un échec de politique publique. On est face à deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter, Emmanuel, quand on voit ce genre de discours.
Ah ben bah là, on a encore franchi des paliers supplémentaires dans la folie, quoi. C'est-à-dire que cette idée que...
Chaque milliardaire représente un échec de politique publique.
Il faut bien comprendre que les milliardaires et les riches en général, c'est un trésor que doit cultiver chaque pays.
Oh.
Mais bien sûr que oui.
La même caricature, hein. Il y a deux caricatures qu'on entend là.
Mais
le milliardaire, c'est un trésor.
Mais Frédéric,
t'as lu La Fontaine ?
Frédéric,
le trésor, il est enfoui dans votre jardin et c'est en travaillant que vous allez le développer.
D'abord,
ils travaillent pas les milliardaires.
Ils ont pu travailler pour le devenir.
Non, ils font travailler les autres.
D'abord, Frédéric, sur le plan des mécanismes économiques, un vrai pays pauvre, c'est un pays, c'est pas un pays qui a beaucoup de pauvres. C'est un pays qui a pas de riches. Je suis désolé. Les riches, c'est un trésor pour une économie.
C'est les super-riches.
Ça paye. Mais moi, ce qui me fascine...
Mais je suis pas pour les supprimer.
Non, mais attends, Frédéric, quand on est aussi intelligent que vous, pensez qu'en plumant 10 milliardaires, on va résoudre tous les problèmes de l'humanité, comme
Oxfam... Mais je dis que ça, c'est une caricature, c'est quand même qu'Oxfam.
Non, mais parce que la réalité, c'est que les pays qui vont bien, c'est les pays dans lesquels il y a les riches qui payent des impôts, qui font travailler des gens... Mais bien sûr que oui. Mais attends, tu préférais que Bernard Arnault ne soit pas français ou qu'il n'existe pas ?
Non, mais je comprends pas, Frédéric. En fait, vous êtes contre la réussite individuelle.
Pas du tout. Pas du tout.
Bah,
d'abord, si on prend, on va prendre un exemple. Quand on a eu l'histoire du vaccin, là, le français Moderna, j'ai oublié son nom un peu, peu importe.
Stéphane Bancel.
Merci, Stéphane Bancel.
Après, Béatrice me répondra.
C'est pas lui tout seul, c'est tout un écosystème de recherche publique française.
Et c'est précisément pour ça qu'il a décidé de justement faire
une
distribution des dividendes qu'il a gagné. Il a été extrêmement généreux. Donc là,
c'est qui prend des risques au début.
Non. C'est le système public et nous qui avons pris des risques avec des financements massifs publics. Et pour aussi Pfizer aussi, ces financements publics massifs. Pourquoi ça devrait aller à un seul ? Il y a un enjeu de partage et de poursuivre encore.
Mais pas
partage au sens de prendre.
Attendez,
parce qu'on sait une chose.
Sur l'exemple de Moderna, c'est totalement faux.
Mais non.
C'est pas du tout l'argent public français.
Mais ah ouais, comment il a fait ses études ?
Mais c'est pas.
Comment ? Où est-ce qu'il est devenu chercheur ? Où est-ce qu'il est devenu
Sur les routes construites par qui il est allé à l'école ?
On fait société. Et après, on envoie tout sur un et on dit : oh, il est gentil, va vous redistribuer.
Non, la réalité, c'est qu'il y en a un qui sort du lot.
On laisse parler
qui sort du lot et qui crée de la richesse, qui profite à
nous. Il y en a un qui écrase les autres.
Laisse Béatrice parler.
Non, en l'occurrence, parler des super riches ou des milliardaires en prenant l'exemple de Moderna et Stéphane Bancel, à mon avis, me semble totalement faux, parce que pour le coup, la réussite de Moderna, c'est pas l'argent public français, c'est la DARPA américaine qui a
et l'argent public américain dans un second temps
qui a mis énormément d'argent sur Sanofi aussi, parce qu'ils ont financé plusieurs projets et qui se sont dit on prend le risque avec ça, ce que n'a pas fait l'Europe. Donc c'est pas du tout l'exemple de
si c'est bien l'exemple qui se nourrissent par l'argent public et après on dit
non, mais en fait, Non, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que
c'est
vous proposez.
Voilà, ça va être très court. Qu'est-ce que ça illustre ? Que le problème, c'est pas prendre aux riches pour donner aux pauvres ou laisser les riches redistribuer aux pauvres. Donc je ne suis pas d'accord avec. Je suis d'accord avec le thermomètre que met en avant Oxfam. Ça, nous serons d'accord sur les inégalités et qu'elles posent un problème. Mais je ne suis pas d'accord avec la solution qui est proposée ni avec le fait que c'est merveilleux,
donc,
c'est riche.
Donc,
il faut utiliser l'argent tout autrement. dans ce que vous dites, il y a un élément intéressant. C'est-à-dire qu'il faut financer des avances pour faire des recherches, financer des avances pour développer. Et c'est ça l'enjeu essentiel. Et l'argent.
Ce que n'a pas fait la France ni l'Europe, c'est les États-Unis. Royaume des super riches qui l'ont fait.
Mathieu, je dénonce la France là-dessus. Très souvent, y compris le roi de Diallo, y compris la BCE, parce qu'elle met son argent pas comme il faut et sans critères. Et les États-Unis, ils pompent sur le reste du monde, donc ils peuvent se permettre de faire comme
ils veulent. Mais alors, donc, ce que vous dites, c'est que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les entreprises, ça ne sert à rien.
C'est un élément de redistribution, c'est pas ça
c'est-à-dire
le fond des choses.
50% de ce qu'on gagne, mais ça ne sert à rien.
C'est un élément de redistribution qui permet de développer le pays, mais c'est le secondaire. Ce qui est important, c'est l'utilisation de l'argent. Et donc, tout le crédit, toute la masse de crédit. Le problème d'une entreprise, c'est pas qu'elle fasse qu'elle redistribue à partir de ses profits. C'est si elle a empoisonné les gens, il faut au contraire qu'en amont les décisions, là il s'agit de Monsanto par exemple, qu'en amont les décisions soient prises autrement.
Non, mais je pense
et donc il y a un problème de levier sur les décisions.
Le sujet des milliardaires dans la société, c'est pas le fait qu'ils existent. Moi je trouve ça ne me dérange pas qu'il y en ait, c'est même, je trouve ça très bien. Le souci de nos sociétés, et notamment de la société française, c'est que l'espoir aujourd'hui d'un gamin qui est à l'école de devenir millionnaire, voire un jour milliardaire, est extrêmement faible. C'est le problème de cette société qui n'offre plus cet espoir-là.
Mais est-ce que ça doit être ça qu'on doit donner comme espoir aux enfants et aux jeunes? Plutôt que d'être chercheur, d'être créateur.
Alors,
Cite-nous un exemple où on a fait autrement et où ça marche.
Mais c'est d'être créateur. Bancel, c'est pas parce qu'il voulait être milliardaire, c'est parce que lui, quand il a fait ses études, il est une génération, il voulait être créateur.
Mais c'est ça.
Mais non, l'exemple, il est plein de contradictions.
Tu prends les Steve Jobs.
Il y a des centaines de travailleurs pour travailler autour de lui.
Qui a eu l'idée, c'est quand même.
Non.
Mais c'est quand même lui.
On veut toujours dire qu'il n'y en a qu'un, c'est pas vrai, c'est jamais un seul.
Ça, je suis d'accord, c'est pas vrai, mais on a tendance à mythifier un peu
stop.
Le type.
C'est fini, c'est fini. Allez, on marque une pause. Allez, 18h40.
Mais avec l'argent public, tu crées le terreau, bien sûr que si.
Ce n'est pas l'État américain qui aurait créé Google ou
Amazon. Bon, vous l'avez compris, on va continuer pendant la pub.
La BCE pour le capital, tu nourris ces milliardaires.
Stop, c'est fini. Allez, on marque une pause. 18, je me lève. Alors là, d'un seul coup, ça enjette.
À 18h45,
à
tout de suite.
On marque une pause, gardez des forces, on parle des retraites dans un instant. Oui. À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Attention. Allez, 18h48, je vous raconte pas la pause, ça a été...
on a continué à ne pas être d'accord.
À l'avenant, comme on dit. Audrey Tcherkov avec nous, bonsoir. Béatrice Mathieu, Frédéric Bocara, Emmanuel Le Chip. Nous avons parlé des retraites pour apaiser un petit peu l'ambiance. Déclaration de Laurent Berger ce matin, leader de la CFDT, qui appelle à des manifestations massives. Je sens monter des mécontentants depuis une semaine. Était-ce le bon moment pour faire cette réforme? Non, tiens, écoutez François Hollande ce matin à la
un expert.
Écoutez.
De la réforme.
Qu'il y ait une nécessité de corriger, oui, bien sûr, mais tout de suite, au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le meilleur moment? Alors vous me direz, il n'y a pas de bon moment pour la réforme des retraites. Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment.
Est-ce un mauvais moment?
Vous voulez la faire quand, en fin de quinquennat? Je sais pas. Donc
dans 6 mois, là, un an, quand il y a moins d'inflation.
Alors Frédéric vous répondra qu'il n'y aurait pas du tout à faire.
Je veux dire, compte tenu du contexte géopolitique, la guerre, on peut l'avoir dans 6 mois ou dans un an. Je pense que l'inflation, elle est là, elle est appelée pour durer, donc on l'aura dans 6 mois ou dans un an aussi. Donc je pense qu'il y a une nécessité.
Pour lui, c'est pas le moment, il n'y a pas d'urgence.
Il y a une nécessité de la faire. On l'a fait. Est-ce que c'est évident, mais c'est qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait des manifestations monstres et une mobilisation très importante jeudi prochain, évidemment. Mais c'est écrit, c'est normal. Et les syndicats et la CGT en tête ont intérêt, même pour elles-mêmes, pour leur organisation interne, c'est le cas de Philippe Martinez, d'avoir quelque chose de très dur, parce qu'ils ont des gages aussi à donner à une radicalité qui se développe au sein même de leur confédération et qui veulent essayer de les rattraper parce que des collectifs courent devant et qui ne savent même pas quoi en faire et comment les rattraper. Donc c'est évident que ça va être dur. Donc ça, c'est une non-surprise, c'est un non-événement. Après, est-ce que ça va contaminer le reste? Là, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Intuitivement comme ça, moi je dirais non, parce que la vraie préoccupation, je pense que des gens, c'est plus la question du pouvoir d'achat que des retraites, et que cette question de l'âge, ils sont contre, mais ils ont en fait un peu internalisé.
Depuis un moment.
Voilà. Mais peut-être que j'ai complètement faux. C'est juste. Voilà.
Un ressenti aujourd'hui, à trois jours notamment de cette.
Un ressenti. Ouais.
Frédéric.
Je dirais deux choses. D'abord, en se plaçant d'un point de vue de commentateur de Sirius, pour être un tout petit peu tranquille. Si on regarde la première réforme qu'il avait tentée, la réforme par points. Bon, on se dit, il l'a abandonné. Certains disent, c'est uniquement à cause du Covid. D'autres disent, il y avait la mobilisation. Donc c'est aussi.
C'est l'argument ça. Aujourd'hui de dire le contexte a changé. Voilà.
Oui, oui. Non. Ce qui est assez intéressant à regarder, c'est que c'est pas celle-là qu'il a choisi de faire. Alors qu'il l'a trouvé formidable et justifié, il fait une réforme hyper classique, paramétrique, par points, de droite, on va dire, c'est pas au sens de l'échiquier politique,
mais
au sens de
choix,
celle qui était préconisée par la droite. Donc il y a quand même un petit problème de timing et de logique de sa réforme qui doit interpeller.
Bah non, parce qu'il l'avait dit,
Et non, puisque c'est pas
il l'a annoncé, on ne reviendra pas, les Français n'avaient pas compris.
Oui, je comprends.
Il prend pas les gens de cour.
J'ai pas dit qu'il prenait les gens de cour. Je dis qu'il y a un problème de logique, parce que si l'autre était formidable et qu'il change. Et alors, soit il change parce qu'il avait tort, soit il change parce qu'il y a une mobilisation, donc les gens doivent se mobiliser beaucoup parce qu'il va pouvoir retirer celle-là aussi. Merci de m'avoir donné l'occasion de dire ça. La deuxième chose, l'enjeu, là où je suis d'accord, l'enjeu effectivement, c'est une toute autre activité, une création de richesse. Mais comme je l'avais dit une fois ici, la réforme ne propose pas de travailler plus, contrairement à l'élément de langage des ministres. Elle propose que les mêmes travaillent plus longtemps. Mais ce qu'il faudrait, c'est permettre à tout le monde de travailler plus. Donc il faut former, créer des emplois. Non, taux d'emploi des seniors, c'est un peu
plus. Non, mais taux d'emploi au sens large.
Voilà. Oui. Créer des emplois, et donc former, parce que si on veut créer des emplois à l'hôpital, il faut former. Donc des avances pour former, c'est pas tordre le bras des chômeurs, c'est former, c'est dépenser massivement, contraindre à ce que les investissements soient créateurs d'emplois, donc aider les gestions des entreprises dans l'autre sens. Moi, je préconise deux éléments sur le financement, deux leviers importants. Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire. Et j'ai fini après ça. Premièrement, désintoxiquer la finance des entreprises. Donc une cotisation sociale sur les revenus financiers des entreprises qui ne paient rien comme cotisation retraite. Ça ferait 34 milliards tout de suite. C'est pas un trésor, faut que ça fonde, c'est pour qu'elles changent leur gestion. Et donc deuxièmement, favoriser les entreprises qui développent l'emploi, donc en faisant une cotisation, une surcotisation pour celles qui taillent dans l'emploi les dépenses de formation et les dépenses salariales pour emmener les autres vers un chemin de progrès. On a besoin de chercher à emmener tout le monde vers un chemin de progrès.
Donc taxer, comme disait Emmanuel.
Non, cotisation nouvelle, ouais, Emmanuel, avec une modulation. C'est pas taxer, c'est emmener vers un chemin de progrès.
Non mais
vas-y.
Comme en 45 a été voté à l'unanimité. Hein.
Non mais imposer des surcotisations, j'ai pas l'impression.
Ça veut dire que
non mais ça part
cher.
D'un postulat que quand une entreprise
démolit l'emploi, faut que ça. On lui interdit pas. Ça va lui coûter un peu.
Démolit l'emploi, c'est parce que ça lui fait plaisir de le faire. Donc c'est un chef d'entreprise, il est content en fait. Et c'est une jouissance interne.
Ah non, c'est vous qui interprétez. Il n'y a pas qu'un chef d'entreprise. L'entreprise, par exemple, il y a BlackRock qui exige. Et on va dire oui, BlackRock, on va faire autre. C'est-à-dire un fonds de pension. Un fonds d'investissement, et donc on va faire autrement. On essaie de desserrer une contrainte et de proposer un chemin.
Non mais, de toute façon, Frédéric, on va pas la refaire, on y est. Donc maintenant, le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir de jeudi?
Il peut retirer.
Pas tout de suite. Mais non.
Il a retiré.
Vous y croyez pas.
Eh, il a retiré l'autre.
Bon, mais vous y croyez pas, Frédéric.
Il va mettre
le pays à feu à sang. Il a la CVT. Il a même Bayrou contre lui.
Alors on a
Bayrou va voter, mais Bayrou dit qu'il faut augmenter les cotisations.
Si au moins le pays est à feu et à sang, il serait bien.
Mais non, il faut pas mettre le pays à feu à sang.
Il serait bien que les gens sachent pourquoi ils se battent vraiment. Et en fait, il n'y a vraiment pas de quoi descendre dans la rue quand vous regardez bien. Bien sûr que non.
Attends, moi quand je suis rentré, 37 ans et demi, maintenant 42 ans,
50 plus. Non, mais attends, moi je ne sais pas, je regarde.
50 plus.
Je regarde. Alors bon, par exemple, les cadres, ça ne change pas grand-chose.
Ça ne change rien.
Puisque fondamentalement, quand ils rentrent sur le marché du travail à 25 ans, ils ne partent jamais. Ici, il leur faut leurs 43 ans de cotisation.
Mais explique aux gens qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils
ont. Et concrètement, quand on regarde finalement, et ce qui est très intéressant, le travail qu'a fait l'Institut des politiques publiques, il montre que les deux tiers des Français qui sont parmi les 20% les moins riches ne seront pas impactés du tout par cette réforme, parce que la réalité, c'est que les discours assez abstraits, et finalement moi je suis effaré par les syndicats sont de plus en plus hors sol, c'est-à-dire que Laurent Berger, qui est quand même quelqu'un qui a plutôt une capacité d'analyse, qui ne comprenne pas, si vous voulez, qu'il soit dans les postures comme ça, mais je comprends, il a été totalement ligoté par son congrès.
Il comprend très bien, sauf qu'il ne peut pas.
Donc voilà, il ne peut pas. Mais la réalité, et ce que montre très bien encore une fois ce travail, c'est que en fait, les gens qui sont les plus modestes. Ce sont ceux qui ont les carrières les plus hachées. Et que la réalité, c'est qu'ils vont bien au-delà déjà des 64 ans. Donc, de fait, ça changera pas grand-chose. Et puis, je signale qu'on a déjà bouffé le quart des économies de cette réforme par tout un tas de câlinothérapie, de mesures sucrées, comme on dit.
Donc, il faut pas la faire, en plus.
Non, c'est une mini-réforme, en fait.
Il faut pas la faire.
Donc, soi-disant, ça va mettre les gens à feu. Non.
Non, il y a pas ça.
Non, je suis d'accord. C'est une petite réforme qui obligera de toute façon dans 10 ans à remettre le métier sur l'ouvrage. Bon. Voilà. Et alors dire qu'on va mettre la France à feu et à sang pour ça.
Top.
Bon, bah.
80% des Français sont contre.
Je voudrais pourquoi. Frédéric,
à chaque fois.
Mais oui, Frédéric, vous parlez de Bayrou, mais que ce soit l'aile gauche ou l'aile droite du macronisme, il est invraisemblable qu'il n'invite pas à voter cette réforme.
J'ai dit qu'il la votera. Mais
alors attendez, je peux terminer. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que là, si ce conflit social s'installe dans la durée, les failles de ce front syndical, elles vont finir par ressortir. Parce qu'on a aujourd'hui la CFDT qui a rejoint les syndicats un peu plus radicaux, mais en réalité, ils n'ont pas du tout la même conception de la protestation sociale. Et que les blocages des raffineries, pour le moment, ils sont portés par qui ? Par la CGT. Il n'est pas du tout sûr que Laurent Berger suive cela. Et par ailleurs, il faut aussi que l'ensemble des salariés acceptent de perdre des jours de salaire dans le contexte actuel. Non. Encore une fois, ce n'est pas du tout gagné.
Non, alors, nous sommes d'accord, la grève, ça coûte cher aux salariés. Ce qu'on le dit pas souvent, je suis très
c'est
content.
C'est toujours les mêmes qui font grève.
Non, mais c'est
lesquels. Mais c'est lesquels que
vous faire plaisir.
De types qui peuvent bloquer le pays et dont les salaires seront payés par les caisses. Nourris par les syndicats.
Non. Mes collègues de l'INSEE vont faire grève, ils bloquent pas le pays, ils vont faire grève. Et parce qu'ils sont touchés. Et parce que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça fait beaucoup. C'est un ou deux ans de plus, mais en fait, c'est cinq ans de plus si on regarde. Juste un mot. C'est pas le sujet, cette réforme des retraites. Créer 100 000 emplois, faire même 100 000 pré-recrutements pour l'hôpital, c'est-à-dire des jeunes, comme on faisait autrefois pour les infirmières. Et on peut le faire avec les avances de la BCE, par exemple. Qu'on recrute tout de suite, avec un pré-salaire, qui paye une cotisation sur ce pré-salaire, qui sont formés, et donc qui demain vont apporter leur contribution pour créer de la richesse. Et les anciens et les âgés qui sont là, ils les appuieront, ils n'auront pas le sentiment d'être une autre forme de retraite, mais de sauver le pays. Mais parce qu'on ne propose pas quelque chose qui les emmène vers...
Bon, alors on a été d'accord, mais vraiment 30 secondes, Frédéric.
Non, on leur propose de souffrir. Allez, on leur fait une formation
c'est
qui les démolit.
Frédéric. On était obligé de s'arrêter.
Mais vous avez mangé du lion avant de nous rejoindre.
Mais c'est ça, là. Ils se chauffent pour la mobilisation de jeudi. Voilà, c'est comme ça.
C'était
très bien.
Ils se chauffent. Oui, à la vanne.
Ils se chauffent pour jeudi, voilà. Mais voilà. Non.
Bah si.
On va suivre tout ça, bien sûr, les prochaines semaines. On verra un petit peu.
Merci. Alors, vous l'êtes aussi, Frédéric.
Caricature.
Vous l'êtes aussi complètement.
Non, je pense pas, franchement.
Si.
Tout le monde apprécie ton esprit nuancé.
Allez, c'est fini pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Non, il a pas dit ça. Frédéric Bocara. Non, il a pas dit. Il a pas dit. Non, mais c'est fini. Bon, allez, stop. Merci à tous les trois. 18h59, c'est fini. Une petite pause, le journal, et on se retrouve dans un instant. On arrête, on ne va jamais y arriver. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.